France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le deuxième volet de notre série consacrée au pouvoir des cartes qui forgent et qui fixent une certaine idée du monde et servent ainsi des projets politiques, économiques ou militaires. Nous parlions hier de la fabrique du centre du monde, l'art délicat et subjectif de la cartographie. Aujourd'hui, les cartes au service du renseignement, le GeoInt.
Tout part des capteurs. Vous avez des satellites dans l'espace, vous avez des avions dans le ciel avec des radars, vous avez des radars au sol, vous avez des caméras de vidéosurveillance ou des caméras qui sont embarquées dans des véhicules. Et tous ces capteurs génèrent beaucoup de données.
Les corrélations sont d'abord réalisées sur les deux axes espace et temps. Il s'agit dans ce cas simple de regrouper sur un même support géoréférencé l'ensemble des éléments pour permettre une lecture à même de comprendre finement ce qui se passe sur ce site.
Dans le renseignement, on aime bien savoir ce qui va se passer demain. Le GeoInt a permis, sur les opérations récentes au Sahel, d'identifier des modes d'action, un petit peu d'anticiper des lieux de vie, des lieux de repos. Ça aide les opérations, c'est bien notre finalité, en appui aux opérations.
Il est loin le temps des toutes premières missions de reconnaissance aérienne de l'armée française au début de la Première Guerre mondiale, quand les avions étaient encore en bois et en toile et pas tout de suite équipés de radios ni d'ailleurs de photographies. Un article récent de la revue Percée raconte les missions de reconnaissance aérienne qui précédèrent la bataille de la Marne. Ces longues journées du 30 août au 3 septembre 1914. Au sol, la cavalerie allait glaner des renseignements de son côté, évoluant par brouillard, le soir, la nuit ou à l'aube, aux heures où les avions ne pouvait pas voler. De jour, dans les airs, les militaires étaient chargés de compléter les informations, observant les glissements des colonnes ennemies sur l'Oise ou dans l'Aisne, ou autour de Villers-Cotterêts, signalant le 2 septembre des villages en flammes près de Chantilly. Mais tout était un peu confus. Dans l'un de ses rapports, le commandant Charret écrit même qu'il ne se rappelait plus le sens de marche des troupes aperçues près de la forêt de Compiègne. Finalement, on découvre le brusque changement de direction des troupes ennemies et le maréchal Joffre ordonnera la glorieuse contre-offensive de la Marne, en dépit donc d'un renseignement encore balbutiant et miraculeusement complété de la découverte d'une sacoche laissée dans sa voiture par un officier allemand blessé, une sacoche qui contenait les ordres du général von Kluck à la tête de la première armée allemande. En 2025, le renseignement militaire est dans une toute autre dimension. Les techniques d'imagerie sont bien plus perfectionnées, c'est sans commune mesure, mais aussi les techniques d'analyse des données. L'intelligence géospatiale ou GeoInt est une discipline apparue dans les sphères militaires et états-uniennes dans les années 60, largement utilisée aujourd'hui notamment par la France. Sa particularité est de ne pas se limiter aux images satellites, mais de croiser, de fusionner des données issues de multiples sources et capteurs pour produire des cartes. Bonjour Philippe Boulanger.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en géographie à Sorbonne Université. Vous avez coordonné le premier manuel universitaire en langue française sur le sujet aux éditions Armand Collin, GeoInt, un outil géopolitique d'aide à la décision. Vous dirigez à la Sorbonne le master géopolitique GeoInt ainsi que le séminaire GeoInt dont la prochaine édition se tiendra dans une semaine exactement. À qui s'adresse-t-il ce séminaire? Qui y participe?
Alors c'est un séminaire qui a été créé en 2013 portant sur les questions de géographie défense et émergé assez rapidement l'idée de GeoInt. Ce concept en fait est resté un élément phare de l'organisation de ce séminaire. Cette année, nous abordons la thématique du GeoInt par rapport à l'intelligence artificielle. Comment améliorer justement cette activité GeoInt qu'on va développer dans les minutes qui suivent par rapport à la massification des données et grâce à des algorithmes.
Comment l'améliorer, mais aussi comment éviter tous les écueils, tous les dangers aussi que peut représenter l'intelligence artificielle, y compris pour le GeoInt. C'est le seul master de ce type en France?
Alors effectivement, autant aux États-Unis, il y a plus d'une dizaine de formations de niveau master dédiées au GeoInt, santé, GeoInt, sécurité. En France, dans l'université publique, il en existe qu'un seul, c'est celui de GAED, Géopolitique Information Géographique Numérique, acronyme GEOINT, à Sorbonne Université.
Donc c'est le vôtre, en l'occurrence, enfin celui que vous dirigez. Donc vous parliez de séminaires qui ont lieu à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis sur la santé, parce que le GEOINT a aussi des usages civils. On va d'abord s'attacher vraiment à l'usage militaire qui en est fait aujourd'hui, et puisque c'est une discipline nouvelle, Philippe Boulanger, vous n'allez pas échapper au préambule obligatoire de la définition du GEOINT.
Oui, alors pour faire simple, hein, puisqu'il s'agit d'une discipline, donc difficile de tout résumer, mais le GEOINT se définirait comme étant la fusion de données, mais des données toujours géolocalisées, géographiques, à base de différents capteurs, donc on dit multicapteurs. En fait, l'idée, c'est bien de corréler, d'associer, de fusionner tout un ensemble d'informations de manière simultanée. Pour quelle raison ? Pour avoir la meilleure information possible au profit du décideur. Donc c'est une information à haute valeur ajoutée, qui résulte d'un travail d'équipe, rarement d'un seul individu, d'un travail d'équipe avec des spécialistes à la fois de la donnée, de la gestion de la donnée, du système d'information géographique, donc de géomaticiens, et puis d'exploitants, c'est-à-dire ce sont des analystes.
Donc qui collectent, avant de les analyser, des informations géolocalisées et horodatées. J'imagine qu'ils doivent mentionner l'heure à laquelle elles ont été établies, parce qu'en stratégie, les espaces, les éléments susceptibles d'évoluer sont importants, de la météo au niveau d'un cours d'eau, en passant par les caractéristiques d'un quartier. Tout ça, ça doit être précisément mentionné, à quelle heure cette image a été prise ou à quelle heure cette information a été glanée, sinon ça ne sert à rien.
Oui, c'est exactement cela. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, il y a vraiment l'idée de collecter le maximum d'informations et de pouvoir les gérer au même moment. Toutes ces informations permettent systématiquement de pouvoir avoir une localisation et une datation. Donc on sait exactement ce qu'il faut pouvoir connaître sur une situation donnée.
Est-ce que le socle reste l'image satellite ?
Alors, effectivement, GEOINT, Geospatial Intelligence, donc tout de suite, on est parti sur une référence liée au satellite, mais en fait, pas seulement. Il y a, à l'origine, deux types de capteurs fondamentaux. Tous les capteurs qui sont liés à l'imagerie, alors spatiale, mais aussi drones, avions de reconnaissance, comme vous l'avez mentionné en introduction. Et puis ensuite, tous les capteurs qui permettent d'avoir des données électromagnétiques. Ce sont les deux piliers du GEOINT à l'origine issus du monde militaire.
Qui utilise à la fois des sources ouvertes et des sources confidentielles, mais le résultat, lui, est toujours confidentiel. C'est-à-dire même quand on entend, par exemple, au tout début de l'émission, on a entendu la voix du général de corps d'armée, Christophe Gomard. C'était lors d'une conférence au SIG, le Salon sur les systèmes d'information en géographie, en 2016. Il était alors directeur du renseignement militaire. Il explique comment il travaille avec le GEOINT, qu'est-ce qu'il peut dire et qu'est-ce qu'il ne peut pas dire.
Oui, alors effectivement, le GEOINT est une activité qui s'est développée en France depuis une dizaine d'années dans le milieu militaire. Cela veut dire qu'en fait, les premiers produits GEOINT que l'on ait pu connaître, très aboutis, qui ont rien à voir avec ceux de la Première Guerre mondiale, qui font appel aussi à la fusion, quelque part donnée, comme vous l'avez aussi mentionné en introduction.
Avec la cavalerie, contrairement à Napoléon,
exactement.
Qui lui disait qu'il n'envoyait que ses hommes et qu'il ne faisait confiance qu'à son propre renseignement.
Avec les avions de reconnaissance. Les cartes topographiques du service géographique de l'armée, les relevés d'informations des artilleurs pour le ciblage. Eh bien, aujourd'hui, on a gardé à peu près le même esprit, sauf que la technologie a évolué. Et forcément, on a une information à très haute valeur ajoutée parce qu'on multiplie les capteurs, on déploie un certain nombre de compétences pour avoir une information très aboutie, très fine. C'est pas anodin que cela apparaît d'abord dans le milieu militaire, dans le renseignement militaire. Ça veut dire que la donnée, l'information est confidentielle. Mais on pourrait aussi parler d'organismes publics civils, voire d'entreprises, qui arrivent aussi à produire aujourd'hui des réalisations GEOINT et qui demeurent toujours une information confidentielle, non diffusable.
Non diffusable. Alors il y a quelques sites qui publient des cartes GEOINT en source ouverte, donc y compris des cartes produites par la gendarmerie ou sur le site du Centre satellitaire de l'Union européenne.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils peuvent publier, qu'est-ce qu'ils ne publient pas ?
Alors,
beaucoup d'opacité quand même autour
deux organisations très différentes. Donc le centre satellitaire de l'Union européenne à Torrejón en Espagne travaille sur le suivi de crises humanitaires, participe à la gestion civile des crises au profit de l'Union européenne. Donc il travaille à la fois sur les infrastructures critiques, sur le suivi de flux de migrants en Méditerranée ou tout autre sujet. Et ils arrivent à produire également de l'information GEOINT grâce aux différents capteurs des pays membres, grâce également à une fédération de compétences, de moyens, pour apporter la meilleure décision possible aux décideurs. Parce qu'en fait, le GEOINT est très opérationnel. Il sert à répondre à une question d'un décideur qui doit aller très vite et qui veut absolument avoir la meilleure information possible.
Par exemple, et pour essayer de faire en sorte que ces cartes soient assez visuelles, cette façon d'utiliser les cartes, en tout cas, pour en revenir, et si j'y reviens, c'est parce qu'il y a très peu de... on a très peu d'éléments aujourd'hui sur la façon dont l'armée française utilise le GEOINT, et donc il y a cette conférence de Christophe Gomard, le général de corps d'armée, de 2016, qui date maintenant, mais qui donne quand même des indices sur la façon dont les cartes et les informations sont utilisées. Alors, il montre des cartes, mais si j'ai bien compris, ce sont de fausses cartes, parce que le simple fait de montrer une carte en GEOINT, même si ce n'est pas une vraie ville qu'on montre, ça donne des idées sur la façon dont elles sont fabriquées. Il ne peut pas tout montrer, donc il passe très vite comme ça sur ces cartes imaginaires. Il explique comment, donc situation imaginaire également manifestement, après des missions de renseignement au Mali et en Syrie, l'armée française déduit de la présence dans une ville d'Irak d'un entrepôt d'explosifs. La carte en GEOINT laisse penser que cet entrepôt est à proximité d'une station essence, d'une école et d'un hôpital, donc il est trop dangereux de tirer, mais qu'en même temps, des informations recueillies au Mali sont contradictoires. Il faut donc les corroborer avec d'autres sources, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, on est sur des sources ouvertes. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça sert aux professionnels qui travaillent en GEOINT.
Oui, comment ? Oui, alors vous avez eu raison de rappeler la part importante qu'a joué le général Gomard dans le développement du GEOINT en France. Le général Gomard, donc l'ancien directeur du renseignement militaire, savait ce que faisait également l'armée américaine et notamment cette agence dédiée au GEOINT aux États-Unis qui emploie 19 000 personnes et qui s'appelle la NGA, la National Geospatial Agency, qui a été créée en 2003. Connaissant donc cette activité GEOINT américaine, le général Gomard a compris que la géographie, que la connaissance à partir de données géolocalisées, horodatées, à partir d'imagerie spatiale, mais pas seulement, de sources ouvertes que vous venez de mentionner, notamment issues de réseaux sociaux, pouvaient apporter une information qui est toujours recherchée par le stratège au sens large. Il faut rappeler, mais on l'a compris aussi dans l'introduction que vous avez présentée tout à l'heure, que la recherche de la connaissance géographique est un idéal, une quête de tous les grands stratèges depuis l'Antiquité. Sun Tse dans l'art de la guerre au VIe siècle avant Jésus-Christ, Strabon, un des fondateurs de la géographie européenne, rappelle bien que la géographie sert aux gouvernants, aux princes et aux stratèges. Et tous, jusqu'à aujourd'hui, disent bien qu'il faut des informations précises qui soient justes.
Tous les étudiants en géographie apprennent cette phrase d'Yves Lacoste, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre. Ce qui est à nuancer dans l'émission d'hier par exemple, on racontait avec Fabrice Argounès comment la question de la cartographie c'était aussi assez, j'allais dire identitaire, c'est pas le mot, mais une façon de se représenter soi-même sur le monde. Ce n'est pas qu'une question de guerre, mais est-ce que le GEOINT, ou la GEOINT, c'est plutôt le GEOINT puisque intelligence signifie là renseignement, est-ce que le GEOINT est encore plus au service de la guerre que la géographie?
Oui. Alors, la géographie est un savoir stratégique, militaire, comme l'a souligné à travers son titre bien connu, Yves Lacoste. Et en fait, le GEOINT, c'est la continuité d'un très long processus, alors qui a commencé depuis l'Antiquité pour dire que la géographie était très utile. Ensuite, à partir du XIXe siècle, lorsque la géographie militaire se développe de manière rationnelle, devient une discipline dans les grandes académies militaires européennes, et la carte est un élément de ces courants de pensée de géographie militaire. Et depuis 10 ans en France, plus de 20 ans, surtout aux États-Unis et aussi dans les pays alliés des États-Unis, le GEOINT est la référence pour le stratège, pour avoir la meilleure information possible. Je souligne là la place de la France qui est en pointe en la matière, celle des États-Unis, mais on pourrait parler de d'autres États dans le monde qui développent des activités GEOINT, l'Inde depuis 2013, la Russie, la Chine, nos pays alliés européens qui voient bien que le GEOINT a pour finalité d'apporter une information et une valeur ajoutée. Ce n'est pas un objectif en tant que tel. La vraie finalité, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière le brouillard brouillard de la guerre, entre guillemets. Derrière la colline, c'est le grand idéal, en fait, des stratèges.
Mais le GeoInt est aussi plein de brouillard, et j'en veux pour preuve l'information qu'on a eue la semaine dernière au sujet. Alors, c'est la Russie qui a pris une carte de GeoInt, mais en fait, une fausse carte que, manifestement, qu'elle a totalement dessinée, inventée, pour accuser les alliés de l'Ukraine de comploter pour diviser le territoire ukrainien déchiré par la guerre, dans l'éventualité d'un accord de paix avec la Russie. Alors après, les services de renseignement s'en sont saisis de cette carte russe, en montrant, regardez, ça peut pas être une carte qui a été faite par l'armée française, puisque la Russie disait que c'était l'armée française. Regardez, le Bélarus est incorrectement traduit en français par Biélarusse. Le nom de l'ancien général français Thierry Burkhard est mal orthographié. Le titre de la carte omet l'article français « là », ce qui, selon eux, était une erreur typiquement commise par les locuteurs natifs de la langue russe. Donc, a priori, cette carte est une fausse carte. Le GeoInt peut être aussi utilisé au service de la désinformation.
Exactement. C'est exactement cela qu'il faut pouvoir souligner, effectivement, parce que le GeoInt sert à renforcer des certitudes. On peut avoir du renseignement humain qui décrit le passage d'une voiture dans le désert, dans telle ville du désert, au Sahel, par exemple. On a déjà une idée d'une information. Le GeoInt va conforter, par le croisement, la corrélation de différentes informations, qu'il y a un objet identifié d'intérêt militaire, si on parle de renseignement militaire. Mais inversement, produire du GeoInt peut créer de l'incertitude pour son adversaire. Alors, c'est de la désinformation, mais c'est une manière aussi de dire, d'envoyer un message à ses adversaires que on a l'information, qu'on sait ce qui se passe derrière la colline, mais en même temps, on peut diffuser de la mauvaise information, et c'est tout à fait un procédé utilisé par certaines armées dans le monde.
Et donc, un outil supplémentaire, Philippe Boulanger, dans l'attirail déjà bien fourni de tout ce qui prépare à la guerre, de tout ce qui renforce et attise les logiques de puissance et de contrôle territorial au détriment de la diplomatie, de la coopération. C'est sans doute une critique que vous entendez souvent. Comment vous, vous en faites soit l'avocat, soit au contraire celui qui va à contre-pied de cette déclaration, de personnes qui pourraient dire oui, le GeoInt, en fait, ça va encore attiser les dissensions entre les États, entre les pays, entre les groupes armés.
Alors, il faut toujours voir le GeoInt comme une supériorité informationnelle. Donc c'est un élément qui est toujours recherché par n'importe quel décideur. On accentue là le regard sur le décideur militaire, mais il faut penser aux commerçants, aux grands chefs d'entreprise. Amazon fait du GeoInt pour optimiser sa rentabilité économique liée à la logistique, à la distribution des colis, à la gestion de ses flux, etc.
Par exemple, qu'est-ce qui l'intéresse dans une carte de connaître l'état des routes
En 2017-2019, Amazon a lancé une étude pour créer un deuxième quartier général aux États-Unis. Et en phase finale, c'est une étude GeoInt qui a permis de décider de l'une des villes qui allait devenir le deuxième quartier général de l'entreprise, en rapport avec tout un ensemble de critères, de cartes, pour prendre la meilleure décision. Alors en fait, le GeoInt est une forme de supériorité informationnelle. Je ne pense pas que le GeoInt suscite des animosités entre belligérants, par exemple, mais par contre, il y a une géopolitique du GeoInt. Il y a une course à l'information. Et le nouvel ère informationnel que nous connaissons depuis presque 20 ans maintenant, Internet, et puis le New Space, qui est un des éléments explicatifs du développement du GeoInt, le New Space, le nouvel âge spatial qui consiste à placer plus de satellites de tout type dans l'espace, et bien participe justement à cette façon de courir après les capteurs, courir au développement, derrière le développement des capteurs, pour avoir le maximum d'informations.
Alors, par exemple, Philippe Boulanger, pour revenir au GeoInt d'usage militaire, vous reprenez une carte en GeoInt dans votre manuel chez Armand Collin, une photo satellite de la ville de Ramadi en Irak, pendant l'opération de reconquête irakienne, reconquête des villes qui avaient été prises par l'État islamique. Donc on est là en 2016. D'abord, quels sont les attributs de cette carte qui sont spécifiques au GeoInt pour qu'on se la représente? Et ensuite, comment est-ce que vous avez eu l'autorisation de la publier? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'enjeux sur ce territoire en particulier, parce que c'est très rare de voir des cartes en GeoInt. Alors, d'abord, à quoi elle ressemble?
Alors, c'est une carte qui est un produit type de fusion de données géolocalisées. Donc, on part d'un socle géographique, donc d'une carte topographique, qui est ensuite complétée par des données issues de capteurs géospatiaux, ensuite d'autres informations liées à la présence d'activités humaines. Dans la façon de réaliser un produit GeoInt, pour que les auditeurs le comprennent bien, il y a une problématique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce que l'on cherche? Donc, soit la localisation d'un ancien chef terroriste, soit le déplacement d'un véhicule. Donc, il y a une problématique. Et ensuite, il y a une collecte d'informations de manière très large. On va chercher donc toutes les informations par tous les capteurs possibles. Pour ensuite...
Lesquels, par exemple?
Ceux que vous avez cités, donc les réseaux sociaux, la carte topographique, des informations d'observation sur le terrain, donc du renseignement humain. Ensuite, du renseignement géospatial pour pouvoir mieux localiser à tel moment un quartier ou un site en particulier pour avoir une vue à l'instant.
Les communications aussi?
Les communications également. Donc, c'est le ROEM, les écoutes électromagnétiques permettent de localiser des boîtiers téléphoniques.
Donc des téléphones piratés
Peut-être, potentiellement, ou pas nécessairement. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble d'informations qui est collecté pour ensuite établir une première analyse qui consiste à faire le tri. Qu'est-ce que l'on garde comme information et qu'est-ce que l'on ne garde plus? Ensuite, il y a une fusion d'informations qui est réalisée. Alors cela suppose tout un processus de validation, de recherche d'expertise pour avoir une bonne information, parce que la vérité, en fait, la qualité de l'information passe par ce stade de la validation, et ensuite est produit une carte. Donc c'est un document, c'est pas un dossier de 30-40 pages, c'est une carte avec un texte sur le côté, une carte qui va tout de suite présenter les éléments qui répondent à la problématique, à la question posée. Donc le décideur, en fait, il regarde ce document et en quelques secondes, voire quelques minutes, il est capable de réaliser l'importance ou pas d'une situation.
Et qui est le décideur, en l'occurrence?
Alors, normalement, c'est le chef d'état-major des armées qui peut avoir ce type d'information. Si c'est un civil ou un décideur d'une autre institution, ça peut être le directeur général de gendarmerie nationale, puisque vous avez cité cette institution tout à l'heure. C'est toujours le décideur, celui qui prend la décision de lancer une opération, qui va pouvoir avoir toutes ces informations à disposition.
Là, en l'occurrence, pour l'Irak, en 2016, il s'agissait pour la France d'aider les forces de sécurité irakiennes sur le terrain qui était en train de se battre contre l'État islamique.
Exactement.
Donc toutes les informations étaient partagées avec elles en temps réel?
Alors, je ne peux pas la tester sur le fond, hein, parce que je n'ai pas toutes les informations, mais on peut supposer que ce soit passé de cette manière, qu'il y a eu des partages d'informations, et puis peut-être aussi potentiellement déploiement d'unités françaises. Tout cela est envisageable, puisque la France était membre d'une coalition contre l'État islamique en Irak-Syrie.
Donc on est un peu comme sur une carte Google Maps ou pour un quartier donné, au lieu de voir s'afficher les restaurants ou les parkings, on voit la localisation d'un QG ou d'un dispositif ennemi. C'est oui. Un peu ça sur la carte que vous avez publiée. On voit, alors il y a à la fois les renseignements géographiques sont désignés, les gares, les routes, les postes de police, les mosquées, les hôpitaux, tout ce qui relève, comme vous le disiez, du renseignement d'origine électromagnétique, les émissions radar et des renseignements d'origine image, comme on dit, donc les chars de combat, les lignes de front, les unités de cavalerie qui ont été détectés par avance. Alors c'est souvent quand même en décalage avec ce que disent les sources ouvertes. J'en veux pour preuve lors de la reprise de la ville de Ramadi par les forces de sécurité irakiennes, alors que les sources ouvertes annonçaient que les forces irakiennes avaient repris la ville, et je pense même qu'on avait des dépêches de l'agence, enfin des agences d'information à ce moment-là, des agents de dépêche, les forces irakiennes avaient repris la ville. Le GeoInt, lui, disait autre chose, que les FSI étaient stationnés devant la ville et qu'elles n'étaient pas encore rentrées dans le centre-ville. Comment ça se fait qu'il puisse y avoir ce décalage-là?
Il est possible qu'il y ait ce type de décalage en raison justement de la précision obtenue par la méthode GeoInt. Le GeoInt permet de faire de la fusion de multiples capteurs et c'est grâce justement à un processus de collecte, de traitement de l'information, d'exploitation au sens d'analyse et puis ensuite de validation et des fusions qu'on est capable d'avoir cette information à très haute valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment attestée.
À très haute valeur ajoutée, c'est c'est parce qu'elle a été transformée, comme dans l'industrie, on parle de renseignement à haute valeur ajoutée.
Exactement, c'est un produit de transformation, en fait, le GEOINT. On va le plus loin possible dans la méthode. Donc, on ne se contente pas d'une source d'information ou de deux sources d'information. C'est vraiment l'idée de fusionner tout un ensemble d'informations. Et pour compléter également un point de vue que j'exposais là tout à l'heure sur à quoi ressemble un produit GEOINT, on peut dire qu'il y a aussi différents types de cartes. Comme on pourrait le faire dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances, il y a la carte que vous suggérez dans votre commentaire à propos de l'Irak, qui est la carte tactique, qui est la carte vraiment très locale, avec des satellites qui permettent d'avoir une résolution extrêmement fine, hein, de quelques dizaines de centimètres. Hein, et puis, on va jusqu'à la carte stratégique habituelle, que l'on appelait auparavant la carte d'état-major, qui peut être au 100 millième, 200 millième, et qui permet d'avoir une vue d'ensemble d'une région et de pouvoir localiser les phénomènes les plus intéressants.
Le GEOINT profite aux trois niveaux de commandement. Le niveau stratégique, le niveau haut pour nos plus hautes autorités politiques et militaires, en transmettant des cartes et des notes de synthèse d'aide à la décision. Mais aussi au niveau opératif, donc pour les commandeurs de nos théâtres d'opération, pour les aider dans leur planification et dans leur conduite de leurs opérations. Et enfin, quand la formation est suffisamment précise, quand on a suffisamment de données, là c'est jusqu'au niveau tactique, et on va intégrer ces données dans le système de préparation des forces.
Le lieutenant-colonel Di Sébastien, je dis Di Sébastien parce que sa voix a été modifiée, il est commandant du centre de renseignement géospatial interarmé. Son témoignage est diffusé par le ministère des Armées dans un petit film de communication qui s'appelle Renseignement militaire, les forces de l'ombre. On expliquait à Philippe Boulanger que les données collectées et fusionnées le sont dans un but précis, toujours au service de quelqu'un, d'un décideur, en l'occurrence militaire, mais il peut être aussi politique ou industriel. Est-ce que ça veut dire que le GEOINT est un outil de communication aussi à destination des opinions publiques, par exemple, qui permettrait de convaincre, ou à destination d'un décideur, on le disait, mais quelque chose, un outil qui n'est pas neutre nécessairement?
Alors, la question de la diffusion est intéressante parce que finalement, comme vous l'avez peut-être observé en consultant les réseaux Internet, très difficile de trouver un produit GEOINT. C'est le résultat d'un tel processus d'équipe pour avoir la meilleure information possible que finalement l'information est préservée. Que l'on soit militaire ou civil, lorsqu'on arrive à une telle finesse d'information, quelle que soit l'échelle géographique, la finalité, il est extrêmement difficile de pouvoir communiquer cette information, ce produit cartographique. Donc il est assez rare de trouver des informations. Il faut parfois se rendre dans des séminaires de recherche ou dans des lieux très particuliers, des colloques par exemple, pour pouvoir distinguer en fait un produit GEOINT. Mais il est très rare de voir cette diffusion. Il n'empêche que quand il existe, on voit tellement la finesse de l'information que on voit son apport immédiatement, que ça soit dans les médias. Il peut avoir des produits GEOINT diffusés dans les médias pour parler de telle crise, mais c'est plutôt rare. Sinon, dans des lieux, des cercles très spécifiques de prise de décision, de pouvoir. Je pense par exemple au centre GEOEPS de la Gendarmerie nationale qui a été créé en 2024. Vous voyez que c'est un processus qui est en cours d'émergence en France. On découvre par le renseignement militaire l'importance du GEOINT il y a 10 ans. Le général Gomard, comme vous le disiez tout à l'heure, lance ce type d'activité. Et aujourd'hui, dans les années 2020, des entreprises privées, je pense à Total Energy ou la Gendarmerie nationale, créent leur centre GEOINT. Alors, ça porte pas forcément le mot GEOINT, parce que dans le GEOINT, il y a INT, intelligence, qui veut dire renseignement. Lorsque l'on fait du GEOINT en gendarmerie, on ne fait pas du renseignement. Il s'agit de produire une information pour résoudre des problèmes, apporter une aide aux décideurs. Par exemple, la gestion du Tour de France, pouvoir gérer les unités sur les ronds-points, etc. Donc c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant de souligner, c'est que bon, c'est une aide à la décision, mais il ne faut pas oublier également que c'est un appui aux hommes de terrain, aux hommes et aux femmes de terrain, à qui l'on demande d'accomplir une mission, une manœuvre, les pompiers, les gendarmes, les policiers aussi, par exemple, pour parler de services publics, et eux aussi ont besoin d'avoir d'informations.
Voilà, donc une activité de renseignement très présente dans le monde militaire, mais aussi dans le monde civil, protection de l'environnement, gestion de la pollution, des catastrophes naturelles, comme le dit par exemple James Clapper, qui est directeur du renseignement national aux États-Unis. États-Unis, qu'il était en tout cas jusqu'en 2017. C'est un ancien général de l'armée de l'air et il a dirigé cette agence que vous citiez tout à l'heure, l'Agence nationale de renseignement géospatial NAG.
GEOINT has a distinct advantage.
Le GEOINT présente un avantage distinct. C'est la discipline du renseignement la plus naturellement transparente. Nous avons pu en parler publiquement grâce au soutien de la NGA lors de catastrophes naturelles, des Jeux Olympiques, du Super Bowl et d'autres événements majeurs. La NGA a également joué un rôle crucial, bien que souvent méconnu, dans le contrôle et le confinement de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous avons fourni des données ouvertes sur la géographie humaine aux pays concernés et pour la première fois, nous avons mis en ligne un site web accessible au public pour le soutien en cas de catastrophe. La NGA et la communauté du renseignement ont appliqué les leçons tirées avec Ebola et après le séisme au Népal, en produisant des évaluations des dommages, en rapportant l'état de fonctionnement des aérodromes, en estimant le nombre de personnes déplacées et en analysant les itinéraires de transport. Grâce à son action, la NGA a permis de sauver des vies et d'aider une communauté lointaine à se relever.
Alors pour ces usages civils, cette fois Philippe Boulanger, quelles sont les données et les capteurs pour les récupérer qui intéressent ceux qui travaillent sur ces cartes de GEOINT?
Alors les données sont de toute nature, mais elles sont géographiques avant tout. Donc ça, c'est le lien avec la géographie justement qui est intéressant de souligner. Les données sont extrêmement larges, les plus larges possibles, c'est-à-dire qu'il faut toutes les données. Tout dépend de ce que l'on recherche naturellement. On vient d'entendre un extrait extrêmement intéressant qui aborde le rôle de la NGA dans la surveillance du développement d'Ebola vers 2013-2014 en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont des équipes de la NGA, donc de cette agence de renseignement américaine qui ont été déployés pour surveiller la diffusion d'un virus. De même, on peut souligner également que la même agence de renseignement avait été déployée dans la gestion de la catastrophe naturelle Katrina en 2005 en Floride et en Louisiane, qui avait été terrible pour les États-Unis.
La Nouvelle-Orléans, bien sûr.
Et ça montre bien ce point de bascule, c'est-à-dire que on a un savoir-faire militaire de très très haut niveau avec des compétences extrêmement élevées, grâce à des capteurs. On en va en parler juste après. Après, des capteurs parmi les plus élaborés. Tout le monde ne peut pas disposer d'un satellite dans l'espace. Certains États peuvent le faire. Donc, on a ce savoir de très haute compétence dans le monde militaire et celui du renseignement en particulier. Et cette compétence se déplace vers le monde civil. Donc, j'ai parlé des États-Unis tout à l'heure pour une grande entreprise. On est dans les années 2010. Et aujourd'hui, en France, on a exactement la même dynamique. Un écosystème GEOINT qui tend à se développer. Ce qu'on appellerait un marché de niche, hein, quand même.
Des intérêts commerciaux et
avec
financiers
derrière. Une start-up du GEOINT, comme Prométhée, par exemple, s'intéresse à la protection de l'environnement, la protection du littoral, et réalise des produits GEOINT, justement, pour favoriser la prise de conscience de tel impact du réchauffement climatique. Mais ça peut être également la gestion de l'eau, ça peut être quantité de sujets. Le processus GEOINT a commencé à être exploré dans la gestion de la Covid-19. En France et en Europe, donc des services publics européens, mais le SANCOM qu'on citait tout à l'heure de l'Union européenne, eh bien aussi a travaillé sur ces questions. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que, et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire militaire des Européens, d'avoir une technologie, un savoir-faire, une compétence issue du monde militaire, parce qu'il y a des moyens, il y a des moyens financiers investis justement pour développer cette compétence, évoluer vers le monde civil. Et c'est ce qui se produit à propos du GEOINT.
Et il y a une doctrine aussi, des moyens, des compétences, mais également une doctrine. Les États-Unis ont été les premiers rédiger une doctrine, mais comment, entre guillemets, la croire, cette doctrine, puisque tout est très opaque et secret. Donc il y a une doctrine, elle existe, mais est-ce qu'elle est appliquée? Et pareil pour la France qui en a publié une en 2021.
Oui, oui. Alors c'est intéressant de rappeler que la doctrine américaine liée au GEOINT est en source ouverte. Vous pouvez la consulter sur Internet. La première date de 2006.
C'est presque suspect qu'elle soit source ouverte.
Ça montre une forme de soft power américain, de pouvoir communiquer justement sur ce savoir-faire, ces méthodes, parce que la méthode est expliquée. Dans la réalité, ensuite, on peut peut-être imaginer qu'il y a des différences. Et cette méthode, c'est celle qu'utilisent tous les alliés des Américains. La France a sa doctrine géospatiale depuis 2021. Elle est assez récente. Elle est en diffusion restreinte, donc on ne peut pas la consulter. Contrairement à celle américaine, qui tend à se diffuser en Inde, dans certains pays d'Afrique, dans le Golfe, arabo-persique, et puis des pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Alors, cette doctrine, effectivement, précise ses méthodes. Tout n'est pas dit, mais elle est extrêmement intéressante. Et elle précise bien les trois piliers pour les États-Unis du GEOINT, c'est de l'imagerie. On part bien de l'imagerie. Ensuite, c'est l'interprétation image. Donc là, on fait du renseignement image. Et troisième pilier dans la doctrine que l'on peut lire, l'information géospatiale. Et là, on fait la fusion d'informations, l'information de données maritimes, par exemple. Alors, la question que vous me posiez était de savoir quels sont les types de données. Eh bien, c'est tous les types de données, en fait. Données terrestres, aéroterrestres, même dans l'espace extra-atmosphérique. Pour suivre les débris dans l'espace extra-atmosphérique, on fait du GEOINT.
Donc ça y est, on y est, la surveillance massive de la population, on y est. Parce que si on se réjouit de pouvoir croiser maintenant toutes les sources de données, y compris les données personnelles, on en est presque à cartographier les comportements avec le GEOINT.
Et oui, tout à fait. Donc on peut avoir beaucoup d'informations. Alors dans la mesure de l'application de la loi, hein, cela dépend des pays, des régions, etc. Mais il est vrai que l'on peut définir des méthodes d'analyse en fonction d'un objet. Ça peut être la surveillance d'un navire en mer, par exemple. C'est ce qu'apprennent les étudiants du Master Guide géopolitique que je dirige à Sorbonne Université. C'est-à-dire que les étudiants apprennent à faire de la fusion de données en partant de la donnée AIS, cette donnée que les navires émettent à partir d'un appareil.
On va parler d'ailleurs d'un cas concret avec Jeffreux en focus. Il va nous rejoindre dans ce studio.
Et puis, on y ajoute ensuite des données images, des données issues des réseaux sociaux, de tous les types d'informations. Alors, cela ne s'apprend pas en quelques jours. C'est une culture de travail pour savoir utiliser les capteurs, donc tout type de capteurs, aériens, extra-atmosphériques, donc géospatial, terrestres, les drones, les senseurs, les robots également servent de capteurs. Ce qui fait qu'il faut arriver à capter cette information, ces données. Il faut pouvoir aussi les rendre homogènes, parce que ces données ont des formats, ont des structures différentes, et il faut pouvoir les rendre homogènes, toujours avec des données géolocalisées et horodatées.
Mais vous comprenez que ça puisse faire peur, Philippe Boulanger, à la fois être d'une grande utilité pour les militaires, et surtout s'il s'agit d'opérations civiles, et bien sûr de lutter contre la propagation d'une épidémie, ou de porter secours à des victimes d'un tremblement de terre, évidemment, mais que cela continue à instiller cette culture de la surveillance qui peut faire peur à nous profanes de la question, et encore une fois aussi en rajouter une couche dans cette on en a pas besoin aujourd'hui, me semble-t-il, mais de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un outil supplémentaire dans cet attirail de tout ce qui prépare à la guerre et renforce les logiques de puissance.
Alors, on pourrait prendre un petit peu de hauteur de vue par rapport à cette question qui est centrale, hein, qui pose une question d'ordre éthique. Hein. Lorsque l'on a commencé à réaliser les premières cartes à la fin du Moyen-Âge, les portulans, et puis ensuite on va faire vite les cartes d'état-major au 19e siècle, on aurait pu avoir la même réflexion, se dire, est-ce que les cartes ne viennent pas devenir intrusives dans notre vie, puisque après on peut taxer un peu mieux les résidents, les populations, puisque l'on sait exactement par la cartographie la localisation de leurs champs, de leurs maisons, etc. En fait, on voit bien que la carte est répandue pour le quotidien, même celle qui est en accès direct sur notre téléphone. On pourrait se faire la même réflexion du GEOINT, c'est-à-dire c'est une information à haute valeur ajoutée. Donc c'est la continuité d'un processus. Évidemment qu'il y a des lois selon les pays qui restreignent l'accès à certaines données. Donc, comme en France, par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en même temps, c'est la méthode de travail qui est intéressante à souligner. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, au tout début, de discipline, cette discipline nouvelle qui est reconnue dans la doctrine du ministère de l'Intérieur aussi, il faut le souligner, publiée en 2020, qui parle justement de cette cartographie GEOINT comme une discipline nouvelle. C'est parce que, finalement, c'est un savoir-être, un savoir-faire pour arriver à mieux réaliser son travail. Alors, de toute nature, on parlait des militaires, mais ça peut être aussi pour les pompiers, pour sauver des vies, ça peut être pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des finalités extrêmement diverses.
Alors, on parlera, vous restez avec nous, Philippe Boulanger, on parlera dans un instant avec Jeffreux d'un cas concret de GEOINT ou d'application de GEOINT. C'est l'appareillage du navire Razoni qui, le 1er août 2022, quittait l'Ukraine avec un chargement de maïs et qui a disparu des radars.
Thank you.
Le groupe britannique The Alan Parsons Project qui raconte qu'il basait son album sur le concept de Big Brother qui vous observe, il y a toujours une caméra qui vous observe, il y a toujours un hélicoptère dans le ciel qui vous surveille et on peut lire une ligne de journal en petits caractères depuis l'espace. Vous écoutez Culture Monde, c'est le deuxième épisode de notre série sur le pouvoir des cartes. Aujourd'hui, les cartes militaires obtenues en fusionnant et en analysant des données issues de multiples sources et capteurs, le GEOINT, né dans les sphères militaires, c'est avant tout une discipline de terrain qu'il faut donc raconter par des cas concrets.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'appareillage du navire Razzoni, un cargo chargé de 26 000 tonnes de maïs et qui le 1er août 2022 avait quitté le port d'Odessa. On l'entend, premier navire à quitter l'Ukraine dans le cadre de l'accord sur les céréales signé quelques jours plus tôt entre Kiev et Moscou après une médiation turque. Mais le Razzoni qui devait se rendre au port de Tripoli au Liban a soudain arrêté d'émettre et c'est le GEOINT qui a permis de le localiser. Bonjour Jeff Reux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le navire Razzoni, c'est un cas d'usage du GEOINT que vous avez étudié avec vos élèves dans le cadre du master dirigé par Philippe Boulanger à Sorbonne Université, où vous êtes donc chargé d'enseignement. Vous êtes ancien militaire par ailleurs et vous avez d'autres casquettes, on y reviendra. Mais d'abord, le cas du cargo Razzoni. Que permet le GEOINT quand un navire coupe son signal AIS, donc ce système d'identification automatique, un peu la carte d'identité d'un bateau?
Alors oui, tout à fait, c'était vraiment un sujet d'intérêt. Originalement, les données AIS permettent de suivre les navires et c'est avant tout utilisé dans la sécurité maritime pour éviter les collisions, par exemple. Cependant, lorsque un navire coupe son AIS, c'est pas anodin. Souvent, c'est lié à une activité qui est pas forcément très légale. Et tout l'enjeu ici pour les étudiants était de déterminer pourquoi il avait coupé son AIS pendant 14 jours. Donc, ce qui est assez long.
Du 12 au 26 août, en effet, après avoir quitté le port d'Odessa. Il coupe son AIS.
Alors, avant d'arriver au Liban, donc l'acheteur initial a décidé de ne plus acheter la cargaison qui datait de plus de 5 mois. Et donc, le navire s'est arrêté au large de la Turquie, a appareillé en Turquie. Donc ça, on peut le savoir avec la donnée AIS. Mais après, devait se rediriger vers Chypre, et a coupé son AIS à ce moment-là. Et donc, on voit qu'il y a, en source ouverte, vers le 17 ou 18 août, une image satellite sur le port de Tartous en Syrie, où on retrouve potentiellement ce navire.
Syrie qui était alors toujours dirigée par Bachar al-Assad, proche allié de la Russie. Donc nécessairement, les questions se posent. Que fait ce navire chargé de céréales ukrainiennes en Russie? Et là, que peut le GEOINT? Qu'est-ce que vous demandez à vos étudiants sur ce cas concret? Est-ce qu'il s'agit de comprendre ce qui s'est passé ou est-ce qu'il s'agit même d'aller chercher des informations vous-même à l'occasion d'un cours de master?
Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, mais la source ouverte, on a beaucoup d'informations, mais il faut pouvoir la corréler et donc valider l'information qui est donnée. Donc, sur cet exercice qui a été donné aux étudiants, on partait justement d'une information de la presse qui affirmait que le Razzoni était à Tartous. Et donc, je demandais aux étudiants de confirmer ou d'infirmer cette information en utilisant la donnée géolocalisée et en l'occurrence la donnée AIS.
Alors, la réponse?
Donc, ça a permis de déterminer qu'il y a bien eu une coupure AIS, donc il s'est passé quelque chose d'anormal. Et en complément, Airbus avait fait un dossier en utilisant l'imagerie Pléiade, donc sur un suivi, a été capable de relocaliser le navire à différents endroits sur le trajet et a confirmé avec une image de très haute résolution la présence du navire dans le port.
Qu'est-ce que c'est l'imagerie Pléiade et pourquoi Airbus s'est intéressé à ce cas-là?
Je pense parce qu'ils avaient les données à leur disposition. Il faut bien comprendre que là, dans ce genre de cas, on est sur un constat de fait et on essaye en fait de remonter l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut savoir que les satellites commerciaux, ils obéissent dans la prise d'image pour répondre à une certaine commande. Mais s'il n'y a pas de commande, ils vont quand même prendre les images satellites sur certaines zones d'intérêt au cas où. Mmh. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils avaient de l'imagerie à disposition. Ils ont pu reconstituer, avec leur renseignement d'origine image, un peu le trajet du navire. Et donc les étudiants, partant de ce dossier, et en faisant la corrélation avec les données AIS, étaient capables de faire du renseignement à valeur ajoutée, comme on disait tout à l'heure.
Et est-ce que donc les informations qui étaient dans la presse à ce moment-là, en l'occurrence les informations de l'agence France Presse reprises par Le Monde, étaient justes alors? Vous avez pu tout
Effectivement,
tout croisé.
C'était juste.
Donc l'ambassade d'Ukraine au Liban avait expliqué à l'AFP que l'acheteur et l'expéditeur s'étaient entendus sur l'annulation de la commande pour des raisons strictement commerciales, des délais de livraison, etc. Mais en effet, ce qui n'expliquait pas tout, et notamment pourquoi ce navire avait coupé son signal et rejoint la Syrie, c'est de la simple surveillance. Dans ce cas-là, le GeoInt, ou c'est une utilisation qui doit aboutir à une prise de décision et laquelle, si décision il y a.
Ça dépend de la question, comme disait tout à l'heure Philippe, ça dépend vraiment du sujet. Là, en l'occurrence, c'était pouvoir expliquer aux décideurs ce qui s'était réellement passé. Dans d'autres cas, lors de mouvements de troupes lors d'une frontière, sur une frontière comme la Russie par exemple, quand on fait une surveillance active des différents casernements ou aérodromes, avec le fort taux de revisite de l'imagerie spatiale, cela permet de quantifier les matériels présents et s'ils augmentent ou ils diminuent. Et ça permet d'essayer d'anticiper un peu les actions des belligérants.
Alors là, vous parlez de ce qui s'est passé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On sait que les services de renseignement états-uniens, oui, entre autres, mais c'est vrai que sur ce cas-là, les services de renseignement états-uniens étaient quand même très dans une sorte d'alerte depuis déjà plusieurs jours. Est-ce qu'ils ont cherché des signaux en particulier? Quelles sources et quels capteurs ont été utilisés? Est-ce qu'on le sait?
Le renseignement d'origine image. Alors, on va en parler le plus souvent parce que l'image parle. Ça parle au plus grand nombre. Mais il y a aussi le renseignement d'origine électromagnétique.
Donc les radars,
Donc, émissions de radars. Par exemple, un système missile anti-aérien va avoir besoin d'un radar de conduite de tir. Donc lui, il va émettre. Et donc là, il y a des spécialistes du domaine. Quand ils vont capter le signal, vont être capables de dire bah, c'est tel système, enfin c'est tel radar qui est associé à tel système missile.
Donc ça permet d'aboutir en l'occurrence à une activité anormale, mais sans confirmation qu'il va y avoir invasion par définition. Là, on est plus dans tirer des conclusions et ça n'appartient pas à ceux qui dressent les cartes de GeoInt.
Tout à fait, la discipline du renseignement impose de faire des hypothèses. Mais on ne peut pas deviner les actions des belligérants, quoi qu'il en soit. Mais il faut réussir à prévoir en fait, les différents cas de figure.
Qu'est-ce qui est le plus inquiétant quand le GeoInt décèle des activités anormales ou au contraire des silences, un ralentissement soudain des mouvements autour d'un site? Peut-être qu'on peut poser la question aussi à Philippe Boulanger, parce que dans certains cas, l'armée française a dit, par exemple, quand elle coopérait avec le Mali au Sahel, qu'il y avait certains endroits sur le parcours, les parcours récurrents empruntés par les djihadistes, où tout leur système de communication mobile se taisait, et que ça indiquait souvent un rassemblement de forces ou une action terroriste imminente.
Oui, je crois que vous avez donné la réponse à la question que vous posez. En fait, effectivement, une zone de silence suscite certaines interrogations, ce qui montre bien l'importance des capteurs. Quand ils parlent, ils ne parlent pas.
Quand ils le parlent, ils ne parlent pas. Ça, c'est intéressant aussi à dire, Jeffreux.
Et on a eu le cas aussi avec les données AIS, justement. Quand il y a une coupure AIS,
c'est quelque chose qui est de suspect. Alors, vous êtes Jeffreux, ancien militaire, chargé d'enseignement, je le disais, dans le master dirigé par Philippe Boulanger à Sorbonne Université, aussi à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes aussi consultant chez Esri France, qui est distributeur exclusif des technologies Esri, donc de sciences de la localisation sur le territoire français. Vous nous avez précisé avant l'émission, consultant avant vente. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est être au contact des utilisateurs du logiciel, donc de toute la suite logicielle Esri, comprendre leurs besoins et faire parler nos logiciels par des cas d'usage, mais qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Parce que, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, les clients peuvent être de la défense, mais aussi de l'énergie, surveillance de l'eau. Et donc, il faut bien comprendre ce besoin qu'ont les utilisateurs et leur montrer tout ce qu'on peut faire avec ce genre de logiciel qui, à l'origine, est un outil de cartographie, mais qui est capable de faire du GeoInt en profondeur. Et ça, souvent, les utilisateurs, ils ne connaissent pas toute la puissance. Donc, on est là pour ça, pour montrer toutes les capacités.
Il y a aussi de gros enjeux commerciaux et financiers dans le GeoInt aujourd'hui.
Oui, ça se traduit déjà par l'imagerie spatiale. Il y a de plus en plus d'opérateurs satellites commerciaux. Il y a Airbus et Maxar pour les plus anciens. Mais il y a énormément de start-up, comme disait Philippe tout à l'heure, avec Prométhée. Mais il y en a de plus en plus dans les différentes gammes spectrales. Donc on parle souvent d'imagerie optique, mais il y a aussi de l'imagerie radar, hyperspectrale. Et il y a de plus en plus d'offres commerciales. Et donc forcément, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et donc, il faut pouvoir aider ces nouveaux utilisateurs. Et voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'avant d'arriver chez Esri France, j'étais chez Geocatry, qui est une petite société française qui date d'il y a 10 ans, qui est vraiment spécialisée dans le GeoInt. C'est sa marque de fabrique, ça depuis 10 ans.
C'est vrai que souvent dans Culture Monde, on invite des chercheurs qui sont strictement universitaires. C'est intéressant aussi parfois d'avoir des profils, comme on dit, comme les vôtres, qui ont aussi travaillé dans le privé pour d'autres intérêts, entre guillemets. Mais comment est-ce que ça nourrit votre réflexion sur le GEOIN? Je pense par exemple à des grosses entreprises de ressources naturelles qui s'intéresseraient aux positions de l'État islamique dans le Mozambique. Comment on fait la part des choses entre ce qui relève vraiment de la sécurité des populations dans le Mozambique menacées par l'État islamique, de ce qui relève des intérêts de ces grandes majors du pétrole et autres dans cette région? Et est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est une question qu'on se pose quand on fait du GEOINT, Philippe Boulanger?
Alors, vous avez bien fait de rappeler que le GEOINT a une finalité opérationnelle. Il s'agit vraiment de répondre à un besoin, d'où la présence de Geffreux derrière le micro. C'est que, par exemple, pour former des étudiants, il y a la recherche universitaire qui aide, même si le champ du GEOINT est assez récent en France. Mais on a besoin également, pour la formation des étudiants, d'avoir l'expertise, le savoir-faire d'opérationnel de très haut niveau, ce qui est le cas de Geffreux en la matière. Alors, évidemment, on part toujours du principe que l'on ne sait pas grand-chose d'une situation. Une situation comme celle que vous mentionnez au nord-est du Mozambique à Cabo Delgado, l'État islamique se développe à la fin des années 2010. Que sait-on de la situation ? On peut avoir des bribes d'informations par des observations de terrain dans du renseignement humain et on peut se rendre compte assez rapidement. Vous avez insinué justement parfois la contradiction des sources tout à l'heure dans un autre exemple. Il faut pouvoir le vérifier et on ne peut pas partir que d'une seule image satellite. Ça ne suffit pas que de renseignements humains. Il faut pouvoir s'appuyer sur différents capteurs, types de sources, en supposant toujours que cette donnée doit être horodatée, géolocalisée. Et ce n'est pas évident. On se rend compte qu'en fait que c'est très difficile. On pense tout savoir d'une situation, c'est rarement le cas, et il faut arriver à savoir.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour parler du GEOINT. Alors Geffreux, je vous ai largement présenté. Je rappelle que donc vous êtes chargé d'enseignement dans le master dirigé par Philippe Boulanger à Sorbonne Université. Philippe Boulanger, je mentionne un article que vous avez publié dans le dernier numéro de la revue internationale et stratégique où vous parlez du GEOINT maritime plus précisément, parce que vous avez monté un groupe de recherche sur le sujet et votre terrain de recherche en ce moment, entre guillemets, c'est la haute mer d'Arabie, notamment la France ou enfin d'autres pays essaient de définir des zones qui pourraient devenir des aires protégées en haute mer d'Arabie. Et je mentionne d'ailleurs à ce sujet le travail du CHOM, le Service National d'Hydrographie et d'Océanographie. Enfin bon, il y a plein de choses à dire autour du GEOINT qu'on connaît encore très peu. Je rappelle les titres de votre livre, donc chez Armand Collin, ce manuel GEOINT, un outil géopolitique d'aide à la décision. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Au lendemain, Catherine, de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France notamment, Gaza reste en proie à la faim, au bombardement et de plus en plus livré aux milices.
Avec l'assentiment d'Israël pour réduire l'emprise du Hamas, mais à quel prix? C'est la question que posent de nombreux journalistes. Dans un village près de Ran Younes, vidé par des mois de bombardements israéliens, un ancien officier de l'autorité palestinienne est en train de construire une petite enclave armée. Elle se présente comme une alternative aux terroristes du Hamas, annonce le Times of Israel. Ossam Alastal, c'est le nom de cet ancien officier âgé de 50 ans, qui affirme que des dizaines de familles vivent déjà dans son campement à Kizan al-Najjar, dans le sud de la bande de Gaza. Nous sommes tout près d'Al-Mawassi, la zone où Israël cherche à diriger la plupart des Gazaouis déplacés. Ossam Alastal leur promet nourriture, eau, abri et liberté face au Hamas, qui dirige l'enclave palestinienne depuis près de deux décennies. Sur les réseaux sociaux et dans les colonnes du Times of Israel, ce nouveau chef de clan invite les Gazaouis à vivre sous sa protection. Il montre aussi des photos de sacs de farine et de jus de fruits étiquetés en hébreu. Il prétend les avoir reçus d'Israël. Impossible à vérifier, précise le Times of Israel. Mais ce groupe naissant s'inspire d'une autre milice dirigée par Yasser Abu Shabab, un commandant bédouin actif depuis des mois entre Rafah et Ran Younes à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Comme le rapporte I24 News, le Times of Israel, le journal L'Orient 21 et le quotidien israélien de gauche, Abu Shabab et ses miliciens, 300 hommes, selon la chaîne télévisée britannique Channel 4 News, ont attiré à eux des milliers de Gazaouis dans une zone où ils gèrent des écoles rudimentaires, des cliniques et des cantines publiques. Sacrément ironique, estime Naïtar, responsable d'une association de camionneurs de Gaza. Naïtar explique à la chaîne télévisée Channel 4 News comment ces camions ont été pris pour cible à plusieurs reprises par les hommes d'Abu Shabab. Si un chauffeur tente de leur échapper, il tire sur ses pneus, il lui tire dessus ou le frappe. Channel 4 News explique aussi avoir vu un document interne de l'ONU qui décrit Abu Shabab comme un criminel, un chef de gang et un acteur majeur du pillage systématique de l'aide humanitaire à Gaza. Ce document précise que sa base se trouve dans une zone contrôlée par l'armée israélienne et ces hommes escortent désormais des camions qui entrent à Gaza vers les sites de la décriée Fondation humanitaire de Gaza dans le sud de l'enclave. Avec l'aide et la protection de l'armée israélienne, souligne Haaretz, les forces d'Abu Shabab ont aussi combattu des membres du Hamas, indique le Jerusalem Post, si bien que l'armée israélienne a commencé à les enregistrer dans ses systèmes de commandement, révèle Haaretz, de la même manière qu'elle enregistre les soldats israéliens. En échange de la surveillance aussi de tunnels, de l'inspection de bâtiments suspects, ces milices sont payées, autorisées à porter des armes. Elles tirent profit du contrôle des itinéraires de camions d'aide humanitaire, répète Haaretz. Elles font même payer le droit d'installer des tentes dans les zones densément peuplées.
Ces milices qui pourraient un jour mordre la main qui les ont nourries.
Et remplacer le Hamas comme ennemi d'Israël, titre le quotidien Haaretz. La stratégie de faire émerger des clans tribaux, des milices armées, n'a déjà pas fonctionné en Syrie, en Irak, en Afghanistan pour les États-Unis ou encore au Liban, rappelle dans le journal Orient 21, Rami Abou Djamous, prix Bayeux 2024 des correspondants de guerre. Pendant l'occupation israélienne entre 1978 et 2000, écrit-il, les Israéliens avaient installé et équipé l'armée du Liban Sud chargé de lutter contre le Hezbollah. Mais Gaza n'est ni le Liban ni l'Irak, prévient le journal Orient 21. S'il est vrai que la popularité du Hamas a baissé depuis le début de la guerre à Gaza, nous avons parlé dans cette chronique des manifestations qui se sont tenues malgré la répression des islamistes, ce que les Israéliens ne comprennent pas, estime le correspondant de guerre palestinien Rami Abou Djamous, c'est que le milicien Abu Shabab et ses hommes sont perçus comme travaillant pour l'occupant. Les critiques ont plu d'ailleurs autour de la Fondation humanitaire de Gaza où plus d'un millier d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués par l'armée israélienne alors que ces sites sont censés être protégés notamment par la milice d'Abu Shabab et par une société de sécurité privée américaine qui emploie un gang de bikers. Une dizaine de motards, membres de l'Infidels Motorcycle Club qui se voient comme des croisés modernes anti-musulmans, révèle une enquête de la BBC. Tout ce contexte risque d'exacerber le sentiment anti-israélien parmi les Palestiniens, alerte le Washington Institute for Near East Policy, un groupe de réflexion basé à Washington. Pour lui, renforcer les milices dans une société profondément fracturée peut accélérer les conflits internes et renforcer les éléments criminels qui alimentent le chaos à Gaza, estime le Washington Institute. Et les civils, une fois de plus, souligne le Guardian, sont susceptibles d'en payer le prix le plus lourd.
La main qui les a nourris, bien sûr, vous aurez corrigé mon imprécision, mon erreur. Merci Catherine Dutu.